Je me présente rapidement, je m'appelle Nicolas Patin, je suis maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas spécialiste de 68, mais d'autres thématiques. En revanche, bon, du coup, comme en 68, on disait d'où tu parles, je vais expliquer d'où je parle, à savoir, j'ai quand même enseigné pendant 4 ans l'histoire des conflits, et notamment des conflits culturels des années 60 à l'université de Nanterre. Et du coup, ça nous a donné l'idée de parler aujourd'hui de tout sauf la France, parce que finalement, j'entendais murmurer dans la foule à l'instant, avec d'ailleurs un sens de l'observation, mais vraiment très fort. Cela ne devait pas être né en 68. Bon, j'ai connu 4 mois de Giscard, ce qui est quand même déjà une sorte de pas que Mitterrand. Mais effectivement, simplement, on va un peu décentrer le regard, ce qu'on va faire une fois que Ophélie se sera présentée.
Alors bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Ophélie Rion. En effet, j'étais pas née en 68, c'est certain. J'étais pas non plus en Afrique. Voilà, je vous dis ça parce que je suis chercheuse à Sciences Po Bordeaux et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle Les Afriques dans le monde. Donc je travaille sur l'Afrique, plus spécifiquement sur le Mali et un petit peu sur le Burkina Faso. Et moi je travaille sur les luttes sociales et politiques des années 60-70. Du point de vue du genre, donc des rapports hommes-femmes, des questions de sexualité, de mœurs aussi. Et je me suis un peu intéressée à ce qui se passait en Afrique dans les années 68. Donc ce sera vu d'Afrique que je vous évoquerai ces événements-là.
Voilà. Cool. Et donc, en fait, on va adopter, on a discuté en amont pour ce qu'on allait vous proposer, et on va adopter... une démarche en deux temps à chaque fois, et non pas une valse à je ne sais pas combien de temps, mais je vais d'abord, on va d'abord travailler sur les causes des événements, en fait, ce qui a permis à l'échelle mondiale, parce que je ne sais pas qui est déjà venu pour les premières conférences du cycle 68, quand il y a eu Ludivine Bantini et les autres auteurs. Ok. Là, on va vraiment, l'idée de 68 dans le monde, et j'ai bien dit 68 et pas mai 68, c'est de décentrer complètement le regard pour se rendre compte que les événements français ont été extrêmement importants. On en fête aujourd'hui, on en commémore, point d'interrogation, le cinquantenaire. Mais c'est de se dire que 68 est un événement pleinement mondial, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, évidemment en Tchécoslovaquie, évidemment au Mexique, et puis ce qu'on va voir avec Ophélie, qui est vraiment de l'information de première... est très original et que vous allez trouver dans les livres qui sont derrière vous, c'est ce 68, 68, 67, 69, on ne sait pas bien, parce que dans chaque pays, il y a une chronologie un peu différente. Pour vous parler de ça, on va adopter 3 temps, où on va chacun prendre la parole à la suite. Le premier, c'est la question des causalités et des origines de tout ça. La deuxième, c'est les forces sociales en jeu. Finalement, qui était là? Est-ce que c'était juste des étudiants? Est-ce que les ouvriers se sont joints à cette lutte? Et ensuite, peut-être en forme de conclusion, parce que finalement, c'est un peu le moment tristounet de notre intervention, la mémoire, qu'est-ce qui se passe après? Donc vous voyez, une démarche très simple. Pourquoi? Les causalités? Qui? Et puis ensuite, les conséquences. En adoptant à chaque fois, je vais parler un petit peu plus pour l'Occident, même si je vais parler un peu du Japon, et puis Ophélie parlera de l'Afrique. Alors d'abord... pour les causalités et les origines de ce mouvement mondial. D'une certaine manière, on a Edgar Morin, qui nous donne, l'intellectuel, qui nous donne une clé en parlant de 68 comme d'un 1789 adolescent, avec toute la charge que ce adolescent peut avoir un petit peu de distance critique par rapport à ce mouvement, et en même temps de légitimation d'un 1789, c'est-à-dire d'un événement de grande portée. D'une autre manière, on pourrait appeler ça, chez les historiens, une révolte mondiale de la jeunesse. Et ça nous donne déjà une clé de lecture de ces événements à l'échelle internationale. Pour l'instant, je reste à l'échelle internationale. De ce qui a conduit des gens de classes sociales très différentes, des gens de pays très différents, voire d'aires culturelles très différentes, à se soulever dans les mêmes périodes, à la fin des années 60, début des années 70. Alors, si on peut faire une liste non exhaustive, mais importante, des événements qui nous permettent de comprendre le pourquoi, les causes de ce mouvement. La guerre froide, d'une part, qui est le conflit structurant à l'échelle internationale à l'époque, avec d'un côté le bloc occidental, de l'autre côté le bloc soviétique. Mais ça va avoir énormément d'importance aussi pour l'Afrique, pour les non-alignés, pour tous ces pays-là. Ça, on va voir que pour la Tchécoslovaquie, la question de la guerre froide et du poids en l'occurrence, du pouvoir de Léonid Brejnev sur les pays du bloc de l'Est, c'est très important. La guerre du Vietnam, quand même. Pourquoi ? Parce que cet événement, guerre de décolonisation en Indochine, qui dégénère dans un conflit de guerre froide, puisque la guerre froide ne peut pas s'exprimer en tant que conflit central du fait de la dissuasion nucléaire, il va s'exprimer dans des conflits périphériques, mais de haute intensité. Et quand les États-Unis s'engagent dans la guerre du Vietnam, ça a un effet, si vous voulez, de gâchette, d'abord aux États-Unis, puisqu'il y a la conscription, et qu'on envoie des centaines de jeunes. Vous avez peut-être vu la tragédie musicale de Milos Forman, Hair, où tous ces jeunes refusent la conscription. Ils sont des objecteurs qui refusent d'aller tuer des gens au Vietnam. Mais à l'échelle internationale, cette guerre du Vietnam, elle fonctionne comme un catalyseur de la haine anti-américaine, notamment en Occident et, par exemple, en Allemagne, on va le voir. Ou si vous voulez, quand à côté de chez vous, vous avez un « occupant », triple guillemets, américain, dont vous savez qu'il va aller tirer sur des enfants et au Vietnam, ça va catalyser la révolte d'une certaine jeunesse. Au passage, pourquoi cette guerre-là et pas une autre ? C'est tout simplement du point de vue, et ça nous donne déjà aussi une autre clé, du fait que la guerre du Vietnam est la première, celle qu'on a appelée la living room war, la guerre dans votre salon, c'est-à-dire la première guerre retransmise par les postes de télévision en couleur. Ce qui permet un effet émotionnel massif des premières images de ces guerres et puis de cette guerre et puis de cette manière dont les Américains répandent de l'agent orange sur la jungle vietnamienne. Si vous voulez, c'est l'équivalent d'une certaine manière de ce que, pour le coup, ma génération, la guerre en Irak, les premiers SCUD qui partaient dans la nuit sur CNN pendant la guerre d'Irak. Donc la guerre du Vietnam qui a un impact majeur. Mais est-ce que c'est la condition suffisante ou nécessaire ? Tout ça n'aurait peut-être pas eu un impact tel s'il n'y avait pas eu, et vous avez certains livres là-bas, les 60s, et une forme de naissance d'une culture jeune, si vous voulez, de la construction de la jeunesse comme une catégorie à part entière. C'est-à-dire qu'avant 1945, le jeune, il n'existe pas tellement. On est enfant et puis on devient adulte. Et dans ces années-là, alors c'est plus compliqué que ça, parce que l'adolescent, le jeune homme, la jeune fille, ça se développe bien avant 45. Mais en tout cas, dans les années 60, émerge aux États-Unis, et puis cette culture va se répandre un peu partout, la contre-culture, qu'on oppose dans la culture américaine. Vous avez le mainstream, le courant dominant, tout ce qui vient des médias dominants. Et en dessous, cette structure à deux niveaux, vous avez la contre-culture. Et à cette époque-là, il va y avoir un effet de sédimentation. Pourquoi ? Parce que vous avez les étudiants des universités de Berkeley, de la côte ouest des États-Unis, vont lire les auteurs français. Il va y avoir une circulation d'une certaine culture contestataire et la mise en place, par la musique, d'une forme, alors on pourrait dire d'éthos générationnel, c'est-à-dire de sentiment d'être là à un moment donné tous ensemble pour quelque chose, qui va se traduire, on y reviendra, par... tout simplement 1967, le Summer of Love, l'été de l'amour, printemps de l'amour. Oui, c'est été ou printemps, summer. Chaque fois je me plante avec l'allemand, ça fait Sommer, Frühling, Sommer. L'été de l'amour. 68, Woodstock, le premier Woodstock, mais surtout 69, le premier Woodstock, le deuxième Woodstock, où Jimi Hendrix, qui a tous les problèmes, c'est un métis afro-américain indien, donc toutes les populations que les WASP ont massacrées, et en plus, sur la scène de Woodstock, si vous voulez, c'est pas seulement un rassemblement où on utilise la drogue comme espèce de marqueur de rébellion contre les parents, il fait aussi avec sa guitare, il joue l'hymne américain, mais avec sa pédale wah-wah, il imite les B-52 en train de bombarder le Vietnam. Donc il y a un message politique derrière. Bon, tout ça, cette contre-culture américaine, dans un effet d'ambiguïté extrêmement fort et de paradoxe, elle va être en même temps réappropriée par les jeunes français, allemands, italiens, mexicains. Et en même temps, comme ça vient des États-Unis, ils sont enfermés dans cette contradiction d'utiliser les armes que leur fournissent la contre-culture américaine pour se battre contre l'impérialisme américain. Et donc, on est pris dans cette chose-là. Peut-être, dernier élément, est-ce que tout ça aurait eu un tel impact s'il n'y avait pas eu le baby-boom ? C'est-à-dire que là, il y a purement en question d'histoire sociale, il y a des cohortes de jeunes, et dans plein de pays d'Occident, on va avoir des amphis bondés, presque comme aujourd'hui. Ça, on y reviendra peut-être dans les questions. Il y aura un bon quart d'heure de questions, mais des amphis où, si vous voulez, que ce soit à Nanterre, que ce soit à Berlin, à la Freie Universität, vous avez l'idée pour cette jeunesse, cette cohorte des baby-boomers, que non seulement il n'y a pas de place, mais qu'en plus, il faut aller se rebeller contre la génération des parents. Et tout ça vous donne un réservoir qui va, selon les pays qu'on va voir par la suite, se répandre à l'échelle mondiale, mais en prenant à chaque fois une teinture, une coloration nationale. Alors j'ai presque tout présenté, sauf que, et c'est le moment où je passe évidemment le bâton aussi à Ophélie, sauf qu'il ment, les grands absents sont où ? Aux États-Unis. Ben pendant 10 ans, hein, de 1955, Rosa Parks, à 1965, les Afro-Américains se sont battus pour la lutte pour les droits civiques. Et c'est assez intéressant, vous lisez sûrement la presse aujourd'hui, vous voyez que tous les grands noms des droits civiques sont en train de partir là, dans les derniers mois, un par un. Ces luttes, on les connaît, hein, c'est pas des luttes monolithiques, c'est pas uniquement Martin Luther King, hein, séché comme dans un musée, dans la voie modérée hein, de ce qu'a pu être le discours de août 63, etc. C'est aussi Malcolm X, c'est aussi les Black Panthers, c'est des luttes qui vont se politiser autour de débats qui sont encore très actuels. Alors si vous avez eu la chance de voir ce magnifique film qui est Black Panthers, vous pouvez voir qu'encore aujourd'hui, ces questions-là ont un impact. Donc je pense que personne ne l'a vu, parce que sinon vous auriez fait la moue, parce que ce n'est pas le meilleur film que la Terre ait fait, mais bon, ce n'est pas grave. Toujours est-il qu'il ne faut jamais oublier que dans le détonateur des luttes sociales des années 60, il y a cette lutte des Afro-Américains pour les droits civiques qui aujourd'hui est quand même un peu passée sous silence, comme si vous voulez, il y avait eu une naissance par elle-même des mouvements de contestation qui concernaient d'autres types de populations. Voilà un petit peu pour le cadre des causalités.
Alors, peut-être que vous allez être surprise et surpris du fait de parler de l'Afrique quand on parle de 68 comme phénomène mondial, parce qu'en fait, c'est assez récemment hein, qu'on a intégré dans l'écriture de l'histoire l'Afrique à cette réflexion beaucoup plus générale. Pourtant, en Afrique, il y a eu le Mai Dakarwa au Sénégal, hein, qui est connu et qui est vraiment concomitant du Mai sénégalais. Mais voilà, dans les représentations, l'Afrique était considérée jusqu'à récemment comme un continent à part, un peu en retard en termes de lutte sociale et politique. Et voilà, donc c'est une histoire toute récente, je dis ça parce que au niveau des questions que vous pourrez me poser, c'est une histoire qui est en train de s'écrire, de réintégrer le continent africain à cette histoire-là. Donc j'aurais pas forcément réponse à tout. Et en plus, voilà, le continent est vaste. Donc moi, je vais vous parler du Congo, du Sénégal, de Madagascar et du Mali. Mais il y a bien entendu des pays que je maîtrise beaucoup moins, où il s'est aussi passé des choses. Donc pour revenir par rapport à ce que Nicolas, tu disais, donc en fait, tous les éléments que tu as mentionnés fonctionnent aussi largement sur les luttes des années 68 en Afrique. Et il est vraiment important d'élargir la chronologie pour sortir de l'événement de ce moment mai-juin 68 en lui-même et inclure, bien entendu, pour l'Afrique, ce moment des décolonisations qui est extrêmement important et des constructions nationales dans lesquelles cette histoire de 68 s'inscrit sur le continent africain. Donc, le mouvement des droits civiques existe, bien entendu, en Afrique, à la fin de l'époque coloniale, démarre à partir de 1945, où, moi, je vais vous parler surtout de l'Afrique dite francophone, des anciennes colonies françaises, d'Afrique occidentale française. Donc, vous avez, à partir de 1945, des partis politiques et des syndicats qui sont autorisés, qui peuvent se créer. Et ces organisations syndicales et politiques, ce qu'elles revendiquent dans les années 40 et jusqu'à la fin des années 50, en fait, ce n'est pas l'indépendance, ce n'est pas l'indépendance immédiate, mais c'est bien l'égalité des droits. L'égalité des droits en contexte colonial. Et cette égalité des droits, elle fonctionne sur deux niveaux, à la fois l'égalité des droits politiques, le droit de vote, le droit d'être représenté et l'égalité des droits sociaux, égalité salariale, égalité dans les allocations familiales, voilà, qui sont revendiquées par les syndicalistes africains. Et donc, on a toute cette histoire qui est extrêmement prégnante avant qu'on arrive aux années 68 et qui, bien entendu, influe sur les revendications, sur l'histoire des luttes. Dans les années 50, vous avez bien entendu le communisme aussi, le marxisme plus généralement, comme idéologie, comme grammaire mondiale de la révolte, qui est présent en Afrique avec des groupes d'études communistes qui sont mis en place en Afrique par le Parti communiste français. Les jeunes militants et les moins jeunes lisent Marx, Lénine, beaucoup Staline, hein, à l'époque. Et donc, c'est dans tout cet univers idéologique qu'il discute, qu'il revendique des droits. Et ce qui est intéressant, c'est que ces militants des années 40-50, ces militants africains, eh bien, c'est eux qui vont accéder au pouvoir au moment des indépendances, en 1960. Et donc, nombre de pays africains, pas tous, mais quand même un grand nombre, va se tourner vers le socialisme pour construire les nations. Donc, le marxisme, dans les années 60-70 en Afrique, c'est aussi une idéologie et une pensée du pouvoir, même si on a aussi des groupes marxistes d'opposition. Mais ça change peut-être un peu la donne par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Donc, on a le marxisme comme pensée du pouvoir, avec aussi la Chine maoïste qui est très présente dans les référents, parce que les pays africains sont des pays constitués majoritairement de paysans. Et donc, c'est vers la révolution maoïste que les leaders africains se tournent en termes de modèle. Autre modèle qui est important, c'est Israël, avec les kibbutz jusqu'en 1967 et la guerre des six jours. Donc voilà, tout ça pour montrer à quel point on a des modèles différents qui circulent, dont les leaders africains d'obédience socialiste, mais aussi les partis d'opposition s'emparent pour construire leurs référents et le monde auquel ils rêvent en fait dans ces constructions nationales. On est dans le contexte de la guerre froide, qui est bien sûr très important, comme tu l'as rappelé. Ces pays africains, même s'ils font le choix du socialisme, vont se déclarer pour la plupart non alignés. Voilà, pour des raisons, notamment pour des raisons économiques. Mais vous avez quand même pas mal d'étudiants africains qui, à l'époque, vont faire leurs études en Union soviétique et plus largement dans le bloc de l'Est. L'université de Moscou, l'Université de l'Amitié des Peuples, rebaptisée en 61 Université Patrice Lumumba, en référence au leader congolais assassiné en 61, accueille en grande partie les étudiants africains qui font leurs armes intellectuelles et militantes aussi dans ce contexte. Dans ce contexte-là, les étudiants africains vont aussi largement en France pour ce qui est des anciennes colonies françaises. Et vous avez en France la Fédération des étudiants d'Afrique noire, où militent ces étudiants. La Fédération des étudiants d'Afrique noire, qui avait une section bordelaise très, très puissante, mais qui va rester un peu en marge en fait, des événements du 68 français, va regarder ça d'un mauvais œil, en étant plus connectée finalement à ce qui se passe dans leur pays, sur les luttes étudiantes de leur pays. Même si vous avez individuellement, bien entendu, des étudiants africains qui vont s'engager dans le mai français, à l'exemple de Omar Blondin Diop, qui va participer à la création du groupe du 22 mars, va être un étudiant très actif et va être expulsé comme Cohn Bendit de l'université française. Et quand il rentre à Dakar, après le 68 français, eh bien, il continue à militer et va monter un groupe, le groupe des incendiaires. Comme son nom l'indique, le mode d'action, c'est bien de brûler. Et il va être arrêté, il va mourir dans les geôles de Senghor au début des années 70. Donc on a des trajectoires individuelles comme ça qui circulent aussi largement à travers l'espace. Donc en Afrique comme ailleurs, les étudiants manifestent dans les années 68, chantent les mêmes slogans, les mêmes chansons, écoutent la même musique, s'habillent de la même manière. Et ce qui me fait en venir à cette culture contre-culture, en fait, qui a aussi sa place sur le continent africain. Alors là, je vais parler plus spécifiquement du Mali, que je connais mieux, où les jeunes hommes et les jeunes filles, essentiellement urbains, bien entendu, et scolarisés, qui forment une minorité, eh bien, finalement, sont yéyés, écoutent Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, pour les années, les premiers temps des années 60. Ensuite, se tournent plutôt vers les icônes afro-américaines, écoutent Jimi Hendrix, admirent Angela Davis, pour les plus politisés. Les jeunes filles s'habillent en mini-jupe, les garçons en pantalon patte def se font pousser les cheveux. Et là, donc, c'est la mode des grosses afros. Il y a un Woodstock qui est organisé à Bamako en 1969 par les élèves et les étudiants. Donc voilà, donc tout ça fonctionne finalement à l'échelle mondiale. Est-ce que cette mode est politique ? Pas forcément de manière ouverte. Les élèves et les étudiants de cette génération-là n'ont pas forcément de slogans politiques. Mais par contre, dans les régimes de type socialiste et pas seulement en Afrique, cette mode va être perçue comme totalement subversive et donc va être réprimée progressivement. Et donc là, on a des affrontements entre jeunes qui vont être très forts, entre à la fois la jeunesse révolutionnaire qui s'inscrit dans les cadres des partis uniques et qui va être employé pour réprimer cette jeunesse dite yéyé d'une autre révolution qui est incompatible avec les modèles nationaux qui sont inventés à cette période-là. Sachant que les individus, parfois, peuvent appartenir à la fois aux jeunesses révolutionnaires des partis uniques et puis être yéyé aussi le soir, une fois qu'ils ont troqué l'uniforme des pionniers et des organisations de la révolution. Tout ça est bien sûr très compliqué. Voilà.
Ça fait une transition. On n'avait pas tout préparé, mais ça fait une transition dans le sens où, voilà pour le tour d'horizon des causalités, hein, dont on voit qu'elles sont en même temps politiques, culturelles, internationales. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de répondre à cette question de quelles sont les forces sociales qui ont porté tout ça. Vraiment de regarder dans le détail, une sorte de voyage un peu pays par pays. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est peut-être un des rares pays où il y a eu, on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça, mais où il y a eu une telle alliance entre les mouvements étudiants et les mouvements ouvriers. C'est resté hein, vraiment une sorte d'image d'épinal de cette jonction entre les étudiants et les travailleurs, ce qu'on appelle en ce moment la convergence des luttes. Et donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder un petit peu au-delà du côté transnational, un certain nombre d'exemples par pays. Alors moi, en l'occurrence, c'est une invitation au voyage, mais sans prendre l'avion ni le train, dans cinq exemples, pour essayer de voir le détail, dont certains vont être peut-être exotiques, d'autres moins, de ce qu'a pu être, non pas 68, mais les années 66, 7, 8, 9, 10, voire les années 70, hein, dans certains pays. Alors peut-être je vais commencer par le printemps de Prague, en Tchécoslovaquie, parce que cette grande révolte, elle a été portée par des forces sociales assez complexes et assez originales. Pourquoi ? C'est pas une révolte qui, dans le contexte du pacte de Varsovie, hein, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'historien, on dit, voilà, la répression du printemps de Prague a été assez faible, sauf qu'à l'époque, ils n'avaient aucune idée, hein, les étudiants et les autres à Prague, que Brejnev n'allait pas les écraser, comme ça avait pu être le cas à d'autres époques. Qu'est-ce qui se passe dans ce qui concerne la Tchécoslovaquie? C'est un processus quasiment endogène, spécifique au Parti communiste tchécoslovaque. Si vous voulez, c'est assez peu les étudiants, c'est assez peu les ouvriers. Hein, il va y avoir assez peu de grèves, hein, pendant le printemps de Prague. C'est vraiment à l'intérieur même du parti communiste tchécoslovaque, et en l'occurrence avec la figure de Dubček, qu'il va y avoir une tentative de rénovation interne du socialisme à visage humain, hein, c'est-à-dire l'idée de rompre avec les anciennes générations de communistes. Et là, on retrouve un ingrédient très important que, pour le coup, on va retrouver partout, la question générationnelle. Donc, je ne vais pas beaucoup plus loin. Cette insurrection, elle va être réprimée. Alors, j'ai envie de dire, dans le sang, oui, il va y avoir des morts, il va y avoir des blessés, mais rien comparé à ce qu'on attendait de 56, pour faire la comparaison avec la Hongrie. Ça va être plutôt une surprise, mais en revanche, les gens qui se mobilisent, c'est dans le Parti communiste à l'intérieur, avec une incapacité des têtes dirigeantes à réprimer ce grondement de la rénovation interne au parti. Je m'arrête un petit peu plus longuement sur l'Allemagne, qui est un cas très important. L'Allemagne et l'Italie sont des cas très importants. Pourquoi ? On va le voir parce qu'il nous donne une clé de lecture sur ce qu'a été cette révolte. Alors en Allemagne, on a longtemps cru que c'était quelque chose qui était exogène aux partis politiques. Et vous avez un chouette livre, si vous avez envie de le lire. Alors un livre d'historien, Mathieu Dubois, sur les générations qui ont porté la contestation allemande. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne ? Dont on a l'impression que ce n'est pas un pays contestataire. Après tout, ça fait à peine maintenant 25 ans qu'Angela Merkel est au pouvoir. Ah, non, pardon, un peu moins. En réalité, hein, si vous voulez, alors que nous rejoignent les étudiants de CEPA, qui auront la parole, hein, bien sûr, on vous laissera la fin pour présenter, on a expliqué que vous étiez en retard, hein. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne à l'époque ? Il faut bien se dire que l'Allemagne à l'époque, c'est l'épicentre de la contestation, bien plus que la France d'une certaine manière. Pourquoi ? D'abord, ça démarre beaucoup plus tôt. Il va y avoir des manifestations d'étudiants, notamment une très importante qui est le point de départ le 2 juin 1967. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Shah d'Iran, le dictateur iranien, qui est en visite en Allemagne de l'Ouest. Je parle de l'Allemagne de l'Ouest. Et là, arrive ce qui est toujours un déclencheur massif. Un étudiant est tué par la police, et en l'occurrence par un policier qui s'appelle Kuras. J'y reviendrai peut-être un peu après. Il est abattu. Cet étudiant, c'est Benno Ohnesorg, et il va devenir le symbole de la contestation allemande, qui va, si vous voulez, radicaliser le mouvement de masse étudiant. À partir de là, tous les ingrédients sont réunis. Notamment quoi ? Vous avez un empire médiatique qui est l'empire de Axel Springer. C'est le type qui possède Das Bild. Je ne sais pas si vous connaissez Das Bild aujourd'hui. C'est de la presse de caniveau. 4 millions d'exemplaires par jour, ça existe encore, qui vous vend des femmes dénudées, les migrants, c'est pas bien, etc. Donc c'est vraiment l'équivalent d'un tabloïd anglais. À l'époque, Axel Springer fait des campagnes de désinformation massive envers les étudiants, en disant qu'ils passent leur temps à fumer de la marijuana et à faire des incendies. Et tout ça va faire un contexte, y compris politique, où les étudiants vont se rebeller. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on a en Allemagne ce qu'on a aujourd'hui aussi, la GroKo, la Grosse Koalition, la Grande Coalition, où le SPD, qui est censé, le Parti Social-Démocrate, qui est censé être le parti de gauche, fait alliance avec les chrétiens-démocrates, le parti actuel d'Angela Merkel. À partir de là, va se développer ce qu'on appelle l'APO, Außer Parlamentarische Opposition, qui veut dire en français l'opposition extra-parlementaire. C'est-à-dire que si vous voulez, les jeunes, voyant qu'il n'y a plus de débouchés politiques dans les partis, ils vont contourner le jeu politique par la rue, et notamment par les syndicats étudiants, le principal s'appelant le SDS. Avec l'assassinat de Benno Ohnesorg, c'est déjà un premier palier qui est passé, si vous voulez. Mais ça va recommencer l'année d'après. Pourquoi ? Parce que l'équivalent du Cohn-Bendit allemand, qui s'appelle Rudi Dutschke, prend une balle dans la tête. Alors, il va survivre, fort heureusement. Mais, si vous voulez, un militant d'extrême droite va essayer de l'assassiner. Et là, si vous voulez, le mouvement allemand étudiant se dit, là, il est en train de se passer quelque chose d'extrêmement grave, qu'on pourrait comparer, toute proportion gardée, en faisant un petit parallèle avec ce qui s'est passé à Montpellier 3 il y a quelques semaines, où des milices cagoulées sont venues tabasser des étudiants, qui a eu un impact quand même sur la conscience du mouvement étudiant qui est en place aujourd'hui. Alors voilà pour l'Allemagne. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important ? Vous avez d'autres éléments importants. Éléments oubliés, oubliés, pas connus. Beate Klarsfeld, qui aujourd'hui est connue en France, le 7 novembre 1968, gifle un ministre en exercice, Kissinger, en le traitant de nazi. Et là, ça donne une clé de lecture. Pourquoi 68 et 69 et 67, c'est si dur, c'est si puissant en Allemagne ? C'est parce qu'en France, on se rebelle contre papa-maman, certes, mais il y a le mythe résistentialiste. Tout le monde a été résistant, tout le monde a été communiste. C'est faux, mais c'est pas grave. En Allemagne, quand vous vous rebellez, vous vous rebellez contre des anciens nazis. Vous vous rebellez contre tous vos parents qui ont milité dans la SA, les sections d'assaut, etc. Et donc, ça fait un réservoir de radicalité, si vous voulez, où le conflit générationnel se teinte d'une volonté d'envoyer tout le vieux monde des gens qui ont collaboré avec le nazisme à la poubelle. Ça me fait une transition directe vers l'Italie, puisque dans l'Italie de l'époque, vous avez les mêmes ingrédients. Un système politique complètement bloqué. La démocratie chrétienne tient les rênes du pouvoir depuis extrêmement longtemps. Et en face, vous avez qui ? Le Parti communiste, qui est très fort, 25%, 30%. Ça bloque toute alternance politique. Donc, si vous voulez, comme dirait Hamlet, mais en Italie, il y a quelque chose de pourri au royaume de Aldo Moro, à l'époque. Et là, les forces sociales ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que vous avez cette tradition italienne de l'opéraïsme. L'opéraïsme italien, c'est cette tradition très anarchiste d'occupation d'usines. Et donc, vous allez avoir une sorte de radicalisation très forte et des étudiants et des ouvriers. Pourquoi ? Parce que très rapidement, ce qu'on appelle le mai rampant, en Italie, on ne dit pas mai 68, on dit le mai rampant, qui va durer pendant 10 ans. Vous avez l'automne chaud de 1969, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, tout simplement, la violence politique, et une violence politique massive, va s'inviter malheureusement, dans la contestation, sous la forme de quoi ? D'attentats. Ces attentats, on sait aujourd'hui, à la suite d'enquêtes parlementaires qui ont terminé leur travail il y a environ 3-4 ans, pas plus, qu'ils étaient organisés par l'extrême droite, qu'ils étaient organisés par la CIA, et en l'occurrence un réseau de déstabilisation qui s'appelle le réseau Gladio, GLEV, qui avait pour but d'empêcher les communistes italiens d'arriver au pouvoir. C'est l'équivalent, toute proportion gardée, de ce qu'on appelle l'opération Condor dans les pays d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que Kissinger, ce coup-là, pas Kissinger, Kissinger, Henry, ferme les yeux sur les actions bien sales des dictatures américaines du Sud, Pinochet le premier, qui consiste à prendre des militants d'extrême gauche d'Amérique du Sud, leur payer un billet d'avion, les larguer en vol sans parachute et revenir tranquillement en Argentine, en Bolivie. En Italie, on a ça. On a cette violence politique. Les chiffres sont assez parlants. On a quasiment 14 000 attentats en 10 ans. 3 attentats par jour. Et il va y avoir l'attentat de la gare de Bologne, l'attentat de la Piazza Fontana, qui vont vraiment marquer ce qu'on appelle les années de plomb, et qui vont, si vous voulez, étouffer le 68 qui aurait pu être étudiant et ouvrier. Alors j'avance un petit peu. Deux pays auxquels on pense jamais, le Japon. Le Japon va être énormément touché par les années 60, 67, 68. Pourquoi ? Vous avez un parti conservateur au pouvoir qui est extrêmement pesant, un petit peu comme en Italie. L'opposition reste assez peu crédible parce qu'elle est enfermée dans une forme de radicalité qui marche pas bien dans un pays qui est sur une ligne de faille de la guerre froide. Donc au Japon, prendre position très à gauche, vous êtes à quelques pas de la Chine, etc., du Vietnam, c'est compliqué. Et vous allez avoir un petit peu même cause, mêmes effets, un mouvement étudiant extrêmement fort, aussi dans un Japon qui est occupé par l'armée américaine. Donc là, vous avez une figuration, si vous voulez, de l'impérialisme américain sous les yeux des étudiants de l'époque. C'est extrêmement violent. L'université de Waseda de Tokyo est occupée dès 1965 pendant plus d'un an et demi. Et on assiste à ces grands moments de contestation quand la police vient désoccuper, récupérer, si vous voulez, l'université de Tokyo. Ils se battent pendant plus de 3 jours, salle par salle. Gaz lacrymogène, tonfa, c'est-à-dire que, si vous voulez, les étudiants japonais tiennent amphi après amphi pour se battre contre cette tentative. Là aussi, le facteur générationnel. Contre qui se battent ces étudiants de 68 ? Contre leurs parents, qui étaient sous Hirohito, la troisième puissance de l'axe donc des puissances fascistes de l'époque. Même si on ne peut pas parler à proprement parler de fascisme pour le Japon. Je termine par peut-être le plus tragique, le Mexique. Partout en Amérique du Sud, vous avez évidemment, je ne l'ai pas dit, mais le modèle castriste, les Barbudos, Castro, le Che, qui prennent le pouvoir à Batista en 1959 à Cuba, bon certes, vous avez des circulations d'extrême-gauche, des mouvements, le mouvement des Santerres au Brésil, les Tupamaros uruguayens, énormément de modèles. Vous avez d'un côté, on va dire, le côté guérilla dans la jungle avec le Che, mais vous avez Carlos Marighella, manuel d'un guérillero urbain. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il y a déjà des morts en Colombie, c'est au Mexique que les choses vont être le plus tragiques. Pourquoi ? C'est une des sociétés les plus avancées de l'époque, qui ressemble le plus à l'Occident, beaucoup d'étudiants, des grandes universités. Au pouvoir, j'ai toujours adoré ça, ça a changé de nom depuis, mais le Parti révolutionnaire institutionnel, c'est-à-dire qu'il a toujours été là depuis 1929, Parti révolutionnaire institutionnel. Bon, pourquoi pas ? Révolutionnaire institutionnel, pourquoi pas ? Le PRI, qui domine la politique et qui se revendique comme un parti révolutionnaire de gauche, donc si... Pour les gens du PRI, qui sont là suite à la Révolution mexicaine, il n'y a pas de logique à ce qu'on conteste leur pouvoir, puisqu'ils sont eux-mêmes le pouvoir du peuple, etc. Pas de problème. Sauf qu'évidemment, ça va bouger, il va y avoir des occupations. On est dans le pays qui a accueilli Trotsky, on est dans le pays de Frida Kahlo, etc. Et là, en juillet 68, il va y avoir une explosion extrêmement violente du mouvement étudiant, qui va être sur la place des trois cultures à Mexico, réprimé dans le sang. Et alors là, c'est même plus les comptages tels que dans nos manifestations. Le pouvoir dit 35 morts, la rue répond 2000 morts. Donc on n'a toujours pas les comptages. Il est possible que dans la foule assemblée, l'armée tire pour tuer, pas pour disperser. L'armée tire pour tuer et il se pourrait que sur cette place des trois cultures à Mexico en 68, il y ait eu plus de 2000 morts. Voilà, alors je pourrais vous parler d'un certain nombre de pays, mais ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans des livres précis ou plus de recherches. Et donc là, vous voyez que c'est un événement qui, dans chaque pays, va se poser sur des forces différentes, les étudiants, les ouvriers, toujours avec cette lecture générationnelle. Et donc, ce que je trouve plus intéressant, c'est maintenant de tourner le regard vraiment vers l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe ? Quelles forces sociales portent tout ça dans les pays ?
Merci. Alors, en fait, on a aussi des alliances sur le continent africain dans toutes les révoltes et révolutions, en fait, parce qu'on peut parler de révolution dans le cadre des années 68 en Afrique. Alors, côté ouvrier, forcément, les ouvriers représentent pas beaucoup de choses dans le contexte africain de l'époque, et puis en fait encore aujourd'hui, hein, à part l'exemple de l'Afrique du Sud ou du Nigeria. Mais en fait, on est quand même sur des sociétés rurales à 80-90%. Donc, il y a des ouvriers hein, qui existent, qui ne représentent pas grand-chose, qui représentent aussi une élite salariale. Ils ont un salaire, ils ont des droits. Donc, c'est un peu différent. Enfin, ils ne sont pas perçus de la même manière. On a aussi des fonctionnaires, on a aussi des salariés qui représentent cette élite, mais qui sont importants parce que c'est des gens qui ont des syndicats. Et donc, dans toutes ces révoltes et révolutions des années 60, eh bien, c'est par les syndicats de ces travailleurs-là que l'alliance va se faire avec les jeunes. Les jeunes, c'est eux qui sont très importants dans toutes ces révoltes. Déjà, de par leur poids démographique, hein, en Afrique, on est sur des sociétés très, très jeunes. Par leur poids politique aussi. Au moment des indépendances, un certain nombre de partis au pouvoir ont fait de la jeunesse le fer de lance de déconstruction nationale et, dans certains cas, de la révolution. Donc, les jeunes sont organisés, ont leurs propres organisations qui sont plus ou moins liées au pouvoir. Donc, voilà. Donc, c'est cette alliance entre les syndicats de travailleurs, la jeunesse qui est loin d'être homogène. Et là, je parle quand même en grande partie de la jeunesse urbaine et plus ou moins de la jeunesse organisée et scolarisée, et aussi parfois, dans certains cas, ce qu'on va appeler le petit peuple, c'est une expression qui vient de Madagascar, pour qualifier les travailleurs du secteur informel, à la fois les chauffeurs, les commerçants ambulants, beaucoup des jeunes hommes, en fait, et des jeunes hommes voilà, de l'économie informelle, ou les jeunes hommes au chômage. Donc, je vais vous prendre trois exemples qui montrent différentes alliances dans différents contextes. Le premier, qui me semble plus important, en fait, c'est l'exemple congolais de la révolution au Congo-Brazza en 1963, qui est une révolution initiée au départ, pas du tout dans une optique révolutionnaire, par les syndicats de travailleurs qui décrètent une grève générale en 1963 pour protester contre l'arrestation arbitraire de militants syndicaux. Et en fait, ils vont être rejoints par les jeunes qui vont complètement déborder ce que les syndicalistes prévoyaient, et les jeunes vont prendre le pouvoir. Trois jours d'insurrection. En trois jours, le président tombe. Les jeunes prennent le pouvoir. Alors certes, vous avez un nouveau président hein, qui est nommé, mais qui finalement n'a pas vraiment de pouvoir, avec une équipe ministérielle, un gouvernement plutôt de techniciens. Et c'est l'organisation de la jeunesse qui va gouverner jusqu'en 68, en partant d'organisation de quartier à l'échelle locale. Et vous avez comme ça cette révolution de la jeunesse qui se passe au Congo en 1963, qui est une forme de prémisse de la révolution culturelle avant l'heure, avec tout un tas d'innovations qui sont faites au niveau local. Des jeunes filles qui sont très présentes dans le mouvement révolutionnaire, qui accèdent à des postes de responsabilité. Donc, je vous ai dit, les jeunes gouvernent, donc ils font la politique scolaire. Ils lancent un vaste programme de scolarisation à l'échelle des quartiers. Ils s'occupent aussi de la politique étrangère. Donc, c'est eux qui font les liens avec notamment le Bloc de l'Est. Et voilà, donc vous avez vraiment cette jeunesse qui, dans le cas congolais, à l'étonnement de tout le monde, hein, va se retrouver au pouvoir pendant quelques années. Un cas un peu différent, c'est le cas de Dakar, qu'on connaît mieux en France, où là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est les élèves et les étudiants qui vont se mettre en grève à partir de mars, en fait, de mars 68. Alors souvent, on considère... Enfin, c'est le président Senghor hein, qui reproche aux étudiants d'avoir... il dit dans ses propres termes, singer les étudiants français et fait même chose tout bab. C'est complètement faux. En fait, les étudiants sénégalais se sont mis en grève avant ce qui se passe en France, au milieu du mois de mars. Donc, ils se mettent en grève, notamment pour dénoncer les accords de coopération avec la France, de coopération éducative et le fait que l'université de Dakar, qui a été créée en 57, c'est la 18e université française. Et c'est toujours une université française, malgré la décolonisation. Une université française, du point de vue de son personnel, du point de vue de la gestion des programmes, voilà, à tout point de vue. Et donc, c'est notamment contre ça, et aussi le point déclencheur, c'est le fait que les bourses soient réduites de moitié à partir de 67. Donc, c'est contre ça que les étudiants vont se soulever, et les étudiants de Dakar, et se mettre en grève. Ils vont être rejoints très rapidement par les lycéens, les écoles secondaires, et ensuite, à la fin du mois de mai, par les syndicats de travailleurs, au départ les enseignants et ensuite les syndicats plus largement, qui réclament, là, qui ont des revendications syndicales, hein, une sécurité sociale, le plein emploi, et puis aussi, encore une fois, l'ingérence économique de la France. Et donc, on est vraiment dans ces décolonisations non abouties qui sont remises en question à la fois par les jeunes et à la fois par les organisations syndicales. Le mouvement va être insurrectionnel, va durer plusieurs semaines, va être réprimé très violemment. L'armée va être envoyée pour réprimer la contestation. Et finalement, le président Senghor va ouvrir les négociations. Voilà, aussi bien avec les salariés, le SMIC va être augmenté, tout comme les salaires. Et avec les étudiants, une vaste réforme de l'université va être mise en place. Néanmoins, l'université va être fermée pendant un an. C'est une année blanche. C'est un bon moyen de couper court à la contestation. Et pour la première fois, en 69, un recteur sénégalais va être nommé. Jusque-là, c'était un recteur français. Donc voilà, un mouvement qui ne fait pas tomber le pouvoir, mais qui le fragilise. Vraiment, le pouvoir de Senghor est mis très, très mal par cet événement qui se passe donc en mars, avril, mai, juin... au Sénégal. Dernier exemple, c'est le mai malgache qui se passe en 1972 et qui est un mai en fait très intéressant parce que là, les élèves malgaches vont essayer de proposer une école nouvelle. Et ça fait un petit peu écho à ce qui se passe à la fois en 68 en France ou aujourd'hui dans les universités occupées. C'est-à-dire que tous les matins, en fait, les élèves, alors là, c'est vraiment tous les élèves du primaire au supérieur, occupent leur établissement et se retrouvent tous les matins pour discuter collectivement de comment mettre en place l'égalité des savoirs, comment créer une école qui soit vraiment une école égalitaire, qui soit ouverte à tout le monde, qui soit pas uniquement ouverte aux urbains et aux enfants de bourgeois. Et donc tous les matins, les étudiants et les élèves planchent, réfléchissent à ces questions-là, ces questions fondamentales, et ils en discutent. Ces questions ensuite sont reprises dans les tracts, sont rediscutées l'après-midi dans les assemblées générales. Et au-delà de ce savoir qui ne se transmet plus de manière verticale des enseignants aux élèves, vous avez aussi toute une réinvention de la langue qui se passe à Madagascar. Donc ces discussions ont lieu en malgache. Alors que jusque-là, le français était la langue de l'école, les élèves écrivent en malgache, inventent des chansons, des poèmes. Et donc, on a une réinvention du langage très, très forte à cette période-là. Et donc, une contestation encore de l'école qui est considérée comme un héritage français et qu'il faut malgachiser. Les élèves seront rejoints dans leur mouvement par les syndicats de travailleurs, par aussi voilà, ce petit peuple, les jeunes, qui viennent aussi, les jeunes soit chômeurs, soit du secteur informel, qui viennent, qui poussent la porte de l'école et qui viennent apprendre. Et ça fait partie des revendications de la jeunesse, de pouvoir apprendre tout au long de la vie et que l'école ne soit pas fermée selon des critères d'âge. Et vous avez donc tout ce monde qui se mobilise, les paysans, largement exclus des révoltes dont je vous ai parlé avant au Congo comme au Sénégal, vont prendre une part active à ces révoltes. Et d'ailleurs, en 71, juste avant, il y avait une révolte paysanne dans le sud du pays qui avait été réprimée de manière très violente et qui, là, vont se réinscrire en fait dans cette mobilisation. Et une mobilisation qui, encore une fois, va faire tomber le pouvoir. Donc par les étudiants, les syndicats et puis aussi l'armée qui va jouer sa partition dans cet événement. Et voilà, donc Donc on a trois exemples là, très différents qui montrent que des coalitions sont possibles, mais qui montrent aussi que les jeunes forgent vraiment la matrice de ces révoltes et révolutions des années 68 en Afrique. Je te laisse la suite pour...
Tout à fait. Alors, le troisième temps qui va être un peu plus court, et puis ensuite, Khalil, je vous ferai le top pour venir vous asseoir à ma place puisque les micros ne peuvent pas bouger. C'est ce troisième temps, c'était un peu le qu'est-ce qui se passe après, le long terme, la mémoire, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, sachant que côté français, si on revient deux secondes de là où on parle, on a un double effet de loupe. Dès l'époque, le 68 français, dont vous voyez qu'il est un parmi des dizaines, est mis sous l'effet d'une grande loupe agrossissante. Pourquoi ? Parce que d'abord, les intellectuels français, Sartre, Baudrillard, tous ces gens-là, ce qu'on appelle la French Theory, en fait, se lient sur les campus américains, donc il y a des effets de circulation intellectuelle très forts qui vont un peu peut-être grossir ce qui se passe en France. La deuxième chose, c'est que tout simplement, la France, pour beaucoup de pays dans le monde, c'est 1789. C'est-à-dire, c'est le pays de la Révolution. Donc, il y a des effets d'écho qui vont grossir. Mais le deuxième moment de grossissement, c'est peut-être en France, la manière dont 68 est devenu une forme, parmi d'autres, mais d'alpha et d'oméga du discours politique français. Nicolas Sarkozy, discours de Marseille, 13 septembre 2006. Les enfants de 68 ont tout eu. Vous n'avez rien eu. Ils sont des privilégiés. Vous êtes les oubliés de la croissance. Donc, comment on instrumentalise cette mémoire-là ? Alors, qu'en est-il pour les pays dont on vient de parler ? Pour ce qui est de l'Allemagne, rapidement, il y a une sorte de double héritage étrange. Pourquoi ? Parce que le mouvement allemand va dégénérer dans le terrorisme, dans la violence politique, avec la naissance, à partir du moment où le mouvement de masse s'en va, à partir du moment, si vous voulez, où les étudiants arrêtent de militer dans la rue, ce que Michel Vivorca et puis Isabelle Sommier ont appelé une sorte de dégradation d'anti-mouvement social. Les gens qui ont milité dans les barricades pendant des années refusent de voir ce mouvement se tarir et vont fonder ce qu'on appelle, un peu pour les dépolitiser, la bande Abader, mais qu'on appelle en allemand la Rote Armee Fraktion, la fraction armée rouge, qui vont commettre un certain nombre d'attentats, 37 morts dans les 10 années qui vont séparer tout ça de l'enlèvement du patron du MEDEF allemand qui s'appelle Hans-Ulrich Schleyer. Donc ça va verser dans la violence politique qui va laisser quand même un héritage dur en Allemagne. Mais inversement, tous ces jeunes dont j'ai parlé, des syndicats, de l'opposition extra-parlementaire, vont s'intégrer dans ce qu'on appelle la SEN, ça existe encore aujourd'hui, dans les partis comme les Verts, les Grünen allemands vont récupérer d'une certaine manière les tendances autonomes, anarchisantes des mouvements des années 60. Et donc en Allemagne, on a un double héritage. Vous avez l'équivalent de Cohn-Bendit qui est Joschka Fischer, et en même temps, vous avez cette peur face à la violence politique, sachant qu'en France, la violence politique a existé, c'est Action Directe, mais c'est beaucoup plus tardif, c'est les années 80, donc c'est pas dans le sillage de 68. En Italie, je vous l'ai déjà dit, 14 000 attentats, et 415 morts. 415 morts, on est avec les brigades rouges et cette stratégie de l'attention des Américains, donc les brigades rouges qui vont se constituer comme un groupe d'extrême-gauche terroriste pour lutter contre l'extrême-droite et les États-Unis, qui vont laisser, si vous voulez, un non-lieu. Pas de mémoire, enfin une mémoire extrêmement traumatisée des années, donc on appelle les années de plomb. Puis je terminerai, parce que voilà, c'est rapidement, parce qu'il y a finalement peut-être peu de choses sur ces, peu de recherches sur ces éléments-là, en préparant le papier là de ces derniers jours. Finalement, je me disais, les États-Unis, est-ce que c'est pas le moment, et je tire un peu ces réflexions d'un livre que vous trouvez chez Molin, qui est récent, qui s'appelle « L'âge de la grande régression », qui a été fait par plein d'auteurs, dont Slavoj Žižek, etc., des philosophes plutôt marqués à gauche, qui explique qu'en fait, peut-être que 68, c'est le divorce, alors qu'on a essayé de vous montrer qu'il y avait des choses qui convergeaient, mais que c'est le divorce d'une certaine gauche sociale et politique, qui s'occupe du droit des ouvriers, des syndicats, et d'une nouvelle génération qu'on peut appeler la gauche sociétale, qui, aux États-Unis, va se matérialiser sur les campus. Qu'est-ce qu'on demande ? Il y a une Rubinsteiner, qui est le dirigeant des hippies de l'époque, qui dit, mais les anciens militants n'ont rien compris. Ils donnent des tracts aux ouvriers. Ce qu'il faut leur donner, c'est des joints. Voilà. Et là, on a une forme de divorce, en fait, entre l'ancienne génération des gens qui vont lutter sur des luttes très politiques, très sociales, très économiques. Et la nouvelle génération de hippies, puis de yippies, hein, qui est le Youth International Party, le parti international de la jeunesse, mais qui, eux, vont lutter sur des choses comme l'amour libre, etc. Ce que nous, la lecture qu'on a parfois de notre 68 à nous. Et là, il y a peut-être un divorce par des effets de... Là, c'est une hypothèse, ce n'est pas une vérité, mais je me disais qu'on retrouve peut-être là-dedans ce qu'on sent dans l'échec d'Hillary Clinton contre Trump, c'est-à-dire d'un côté la côte Est et la côte Ouest très sûrs de ses acquis sociétaux, de ses libertés individuelles, et ce pacte, en fait, qu'on retrouve dans le livre que j'ai cité auparavant, à La Grande Régression, ce pacte libéral-libertaire face à des gens qui, en fait, n'en tirent pas profit et qui, aujourd'hui, on ne sait pas très bien où les situer dans l'espace social. J'en dirai pas plus. Voilà, on est dans cet héritage de long terme, des 50 ans, j'avoue, peut-être ça vous fait la même chose, mais 50 ans, 68, bon, ben moi, j'ai beau être né 13 ans plus tard, 50 ans, ça paraît, on a l'impression qu'on est en train de le mettre dans le formol, en espérant qu'avec cette conférence, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Et je passe le bâton.
Alors, bah, moi, je suis un peu embêtée pour répondre sur la mémoire de 68 dans les pays africains dont j'ai parlé, puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mémoire, en fait, que tout le monde a occulté ces événements-là. Certes, alors j'ai regardé à Dakar, là, l'université de Dakar va organiser un événement, mais à l'échelle politique, à l'échelle de l'État, finalement, il ne se passe rien. Donc, on peut mettre des hypothèses de pourquoi il ne se passe rien, pourquoi est-ce que cette mémoire est oubliée. En dehors des écrits, hein, des acteurs de cette période-là, qui là, quand ils écrivent leurs autobiographies, leurs mémoires, on sent que c'est un moment fondamental, à la fois de socialisation politique et plus généralement, en termes de construction individuelle et collective, c'est le moment fondateur. Mais au-delà de ça, ça semble disparaître. Mon hypothèse, c'est que, en fait, après ces événements-là en Afrique, en fait, il y a quand même eu tout ce bouleversement des plans d'ajustement structurel qui ont mis à mal l'économie, les syndicats, les secteurs, ces secteurs qui ont joué un rôle dans ces révoltes-là. Et on est quand même en Afrique dans les années 60, 70 et 80 sous des régimes de parti unique avec une répression très très forte à l'égard des militants politiques et syndicaux. Donc beaucoup sont morts, hein, aussi. Et puis il y a ce moment des luttes, en fait, des démocratisations des années 80-90 qui a peut-être oblitéré ce moment des années 68, qui l'a à la fois oblitéré dans les mémoires, hein, qui a effacé. Et puis aussi, on voit dans ces luttes des démocratisations de la fin des années 80 une reconversion des acteurs de ces années 68 qui, là, sont à l'âge adulte, ne sont plus des jeunes quand... pour ceux qui ont fait les mouvements étudiants et qui vont accéder au pouvoir, en fait, pour un certain nombre, et donc écrire une autre histoire. Et avec cette démocratisation, on a aussi un phénomène de démocratisation dans le syndicalisme et dans les partis politiques. Jusque-là, on était en grande partie sur des syndicats uniques et des partis politiques uniques ou unifiés. Donc on a aussi une fragmentation de la mémoire en fonction de là où on va militer avec ce pluralisme syndical et politique. Mais voilà, j'avoue, je ne sais pas trop pourquoi cette absence de mémoire, à part ces quelques hypothèses que je vous lance. Mais bien sûr, c'est aussi les recherches futures qui pourront permettre de répondre à ces questions-là. Voilà.
Une note un peu triste, on avait prévu que ça se finisse pas forcément dans la joie. Donc on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, évidemment de la Chine, hein, évidemment aussi peut-être plus du bloc de l'Est, mais en tout cas en ce qui me concerne, moi je suis pas multicasquette sur tout ça. Donc voilà, donc Khalil ou Maud ou qui veut, c'est pas. Nous appelons de c'est pas là-bas. Donc les étudiants qui ont pensé cette rencontre, et ensuite on pourra passer aux questions, hein, bien évidemment. Donc,
merci à monsieur Patin et à madame Rillon d'être venus. Merci aussi à la librairie Mola. Donc, on voulait juste dire que cette conférence, elle s'inscrit en fait dans un festival qu'on a fait avec l'association de CEPA, donc toutes choses étant égales par ailleurs, de Sciences Po Bordeaux. Et en partenariat avec la bibliothèque de Mériadec, dans le cadre du programme La Fabrique du Citoyen 3. Et donc, par ce festival. Donc on a reçu des spécialistes de Guy Debord, d'Herbert Marcuse et aussi un 68art. Donc par ce festival, on a voulu en fait pas seulement commémorer mai 68, comme tout le monde fait, mais plutôt remettre en question et réfléchir dessus et voir ce qu'on peut encore en tirer aujourd'hui et ce que ça a encore du sens tout ça, notamment avec ce qu'on...
Et, enfin, moi, pour finir un peu, je voudrais revenir un peu particulièrement sur ce qui se passe un peu en ce moment. Et donc voilà, 68, c'était il y a 50 ans. Et pour la France, donc c'est un mouvement étudiant et pas que. Hein, il y a une grève générale aussi, des ouvriers. Et je pense que la bonne caisse de résonance est... aussi à Bordeaux, ce qui se passe à la Fac de la Victoire qui est occupée. C'est ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, c'est ce qui se passe pour les cheminots, pour les postiers, pour les employés des centres hospitaliers. Et en fait, je pense, enfin, ça c'est mon point de vue, mais je pense que 68 nous a montré pas forcément que c'était acquis, mais juste qu'il y a des choses qui sont à faire. Et. Voilà. Et du coup, moi, en tant que personne qui s'investit particulièrement dans l'occupation de la Fac de la Victoire, je vous invite tous à venir à la Fac de la Victoire après, parce qu'on continuera la discussion et la conférence avec Nicolas Patin et Ophélie Rion là-bas à 20h. Et pour vous dire aussi qu'on est en train de... On fait tout un programme pour montrer qu'en fait, l'université, c'est pas simplement celle telle qu'elle est déjà, mais qu'elle peut être aussi un peu autrement. Et donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Université Libre de Bordeaux, où on tente chaque semaine de construire un programme afin de mettre des conférences, des discussions sur l'enseignement supérieur, mais pas que. Demain, on a une conférence sur le conflit armé basque à 16h. Il y a aussi une AG interlute à 18h30 où tous les travailleurs et les étudiants se réunissent. Et le lendemain, on a une conférence à 20h, par exemple, sur la précarité et les moyens de se mobiliser. Et à titre d'exemple, il y a beaucoup d'autres choses, mais je dis juste ce dont je me rappelle. Vendredi, puisqu'on est dans l'enseignement supérieur, qu'on est étudiant, on met en place une grande discussion où on appelle étudiants, doctorants et chercheurs et profs à venir pour parler un peu de l'impact de la précarité dans la production scientifique. Et voilà. Et il y aura aussi, on l'espère, encore un programme la semaine prochaine. Merci.
Merci beaucoup.